Palestine. Voilà. Ces gens-là, donc, attaquent en diffamation et l'éditeur et l'auteur pour un livre qui s'appelle Camino 999. Alors, ce qui est étonnant, c'est que déjà, ils estiment le titre diffamatoire, alors qu'il n'y a aucun jugement de valeur, simplement le titre. Pourquoi ? Parce que Camino, c'est une référence directe, je cite, hein, l'œuvre la plus connue de Saint José Maria Escrivá, qui est fondateur de l'Opus Dei, qui a été canonisé par Jean-Paul II. L'œuvre est intitulée Camino et composée de 999 maximes. Alors c'est un petit peu étonnant que simplement pour avoir choisi ce titre, qui me semble libre puisqu'il n'a pas déjà été utilisé, il y a déjà une diffamation. Ça c'est déjà un petit peu étonnant. Ensuite, la deuxième idée qu'attaque l'Opus Dei, c'est qu'évidemment il y aurait des meurtres orchestrés par certaines personnes de l'Opus Dei et... ce serait une diffamation pure parce qu'il n'y a aucune preuve dans son livre. Et on ne parle pas de fiction. Or, c'est totalement faux, puisque dans le livre, à des moments, on explique totalement, au début, qu'il y a vraiment une fiction et que cela mêle des faits réels, en particulier une affaire qui s'appelle l'affaire Mateza, qui a été un scandale politico-financier dans les années 70, qui est un fait réel. Par contre, la série de meurtres, on explique bien dans le livre que c'est une fiction, enfin dans la quatrième de couverture, que c'est une fiction totale. Donc il n'y a pas, entre guillemets, de lézard, hein, il n'y a pas de diffamation, c'est une fiction qui, certes, fait intervenir des membres de l'Opus Dei, mais je ne vois pas quelle organisation, quelle qu'elle soit religieuse, politique ou autre, n'a pas déjà fait l'objet de fiction autour de Polar. C'est l'essence même du roman noir. Et c'est assez étonnant. Enfin, nous, on tenait absolument à parler.
Ce qui est grave, c'est que, en fait, c'est de la censure, ni plus ni moins, quoi.
Pour nous, ce qui est grave et pourquoi il fallait qu'on en parle, c'est que c'est de la censure pure et simple et que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Donc, on espère que les juges vont comprendre l'idée de cette liberté d'expression et ne vont pas mettre l'opprobre sur cette maison d'édition. En plus, ce qui est terrible, c'est que, encore une fois, c'est une petite maison d'édition qui a peu les moyens de se défendre, qui n'a pas d'avocat,
ouais.
Donc peu de moyens financiers. Et il est évident qu'une organisation, une espèce de rouleau compresseur comme l'Opus Dei, qui sont
riches comme Crésus, qui plus est.
Voilà. Et qui ont pas part d'elle d'avocat, ont toute chance. On connaît malgré tout les problèmes liés à la puissance d'argent et aux avocats utilisés. Mais,
de là à dire que la justice ne serait pas la même pour tous.
Non, j'ai pas envie d'être attaqué en diffamation. Mais ça nous semble très très grave parce que ça met en jeu carrément. Et Catherine Fradier, avec son livre Camino 999, et la maison d'édition elle-même, qui est déjà fragile et risque d'être complètement laminée. Alors, peut-être le seul petit avantage, c'est qu'on parle de ce livre. Nous, personnellement, nous ne l'avions pas lu. Ça va être une bonne occasion de le lire. Et on espère que des tas de gens vont avoir envie de s'intéresser à ce livre. Ça va toujours quelques subsides, et pour l'éditeur, et pour l'écrivain.
Donc, je rappelle, Camino 999, paru...
Aux éditions
Après la Lune, un livre de Catherine Fradier.
Voilà.
Et on vous tiendra au courant des suites, des démêlés.
Voilà, si vous voulez d'autres détails, parce que c'est une affaire quand même assez intéressante pour tous ceux qui s'intéressent à la liberté d'expression, il y a un site, aprèslalune.com. Voilà, les différents... vous avez beaucoup plus de détails, on ne veut pas non plus ennuyer avec tous les détails juridiques et un certain vocabulaire qui ne nous est pas très familier. Alors, on va changer complètement pour se lancer dans une fiction totale, quoique, ayant interviewé l'auteur, je sais qu'il y a nombre de faits réels dans ce livre, pour vous parler d'un livre paru à la Série Noire, ça s'appelle « Les Allongés », c'est de Charlie Williams, un nouveau venu en France, au niveau de la traduction en tout cas, et la traduction est assurée par le brillant Daniel Lemoine, qui fait un travail remarquable. C'est un livre vraiment qui détonne et qui étonne par sa qualité. C'est l'histoire de Royston Blake. Alors déjà, c'est pas un protagoniste ordinaire, puisqu'il est videur de nuit. On a plus l'habitude, détective, journaliste. Donc lui, il est videur de nuit dans un bar d'une petite ville anglaise qui s'appelle Mangel. Comme dit l'auteur, c'est une ville dont on ne s'échappe jamais, à part les pieds devant. Lui, Rustin Blake, il est content de son sort. D'abord, c'est un optimiste impénitent. Et puis, il est respecté par tous, y compris par les caïds de la cité, les frères Mountain. Mais depuis quelques jours, au début du roman, depuis quelques jours, des bruits courent qu'il serait un dégonflé, un trouillard. Et le problème, c'est qu'un type comme Rustin Blake, qui admire à ce point Rocky et Clint Eastwood, ne peut pas rester insensible. Il décide donc de montrer à tous de quoi il est capable. Et pour montrer de quoi il est vraiment capable de tout. À coups de marteau, à coups de flingue, même un petit peu grâce à une tronçonneuse qui a un joli petit nom. Alors je sais pas. Ah oui, la tronçonneuse, elle s'appelle Suzanne. C'est mignon quand même pour une tronçonneuse. Hein. Donc ses projets d'avenir.
Il y en a bien qui ont des guitares qui s'appellent Lucille. Hein.
Oui, c'est vrai. Donc ça fait beaucoup moins mal, une guitare. Hein. Bon. Ses projets d'avenir sont aussi de séduire la jeune sœur des Mountain. Et puis, tant qu'à faire, de devenir associé dans la boîte où il travaille. Mais évidemment, tout va de travers. Et ce ne sont pas ses amis, tous plus branquignoles les uns que les autres, qui vont l'aider à sortir de ces galères dans lesquelles il s'enferme au fur et à mesure. Il va vraiment de mal en pis, et c'est pas la Noiraude qui le dit. C'est un roman qui est totalement macabre, qui est absolument terrible. Et moi, qui ai du mal avec certaines scènes très violentes, aussi bien dans les films que dans les livres, ça ne m'a pas du tout gênée, parce qu'en fait, ça utilise les codes du roman noir pour mieux leur tordre le cou. On a d'abord ce qu'on appelle en anglais un « tough guy », un « dur à cuire », comme on n'en fait plus, et dont on ne sait pas si on doit admirer l'optimisme qui confine complètement à la crétinerie ou bien complètement s'effrayer de sa morale très particulière. Il y a un barlouche, évidemment. On imagine la scène presque au cinéma où les copains se rencontrent pour se bourrer la gueule et puis un peu se taper dessus, même entre copains. Il y a des gangsters, tout droit sortis d'un film des années 50. Et évidemment, il y a une femme fatale. Mais enfin, celle-là, elle est vraiment bien singulière comme femme fatale. Et enfin, un des héros de ce livre, la ville de Mangel, cité sombre, sordide. J'aimerais pas me balader la nuit tombée dans ces petites rues. C'est un endroit qui marque tellement ses habitants qu'ils ne peuvent pas s'échapper de son emprise. Voilà, c'est vraiment un roman excellent, tant par le style que par l'histoire qu'il raconte, que par la façon, par la narration dont c'est raconté. C'est le premier livre traduit de Charlie Williams, qui est un anglais, et c'est vraiment une belle réussite. Ce sont des personnages hauts en couleur qu'il sait parfaitement mettre en scène, avec des situations totalement improbables. Bref, on est un peu dans l'univers des frères Cohen. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien que ces livres, qui évidemment sont d'abord écrits en anglais, tombent dans les mains de ces brillants scénaristes et réalisateurs, parce que ça ferait un super film, un peu du style Fargo.
Bon, j'essaierai de leur en parler à une occasion.
Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Un petit coup de musique ?
Un petit coup de musique, eh ben, qui va bien aller dans l'ambiance de bar louche et de trucs comme ça. Une chanson des Pogues qui s'appelle Dirty Old Town.
I'm at my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are dread across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Thank you. night on fire. I smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Voilà, donc c'était l'Epox avec un titre dont je me souviens. Pourtant, c'est répété.
Pourtant, il a répété un certain nombre de fois, Dirty Old Town.
Mais c'était simplement pour entendre ton magnifique accent anglais.
N'est-ce pas ? Et donc, en fait, on reste en Angleterre et on va retourner dans une Dirty Old Town, un petit peu moins grave que celle de Charlie Williams. C'est un roman de Graham Hurley qui s'appelle Les Quais de la Blanche, qui est paru aux éditions du Masque et qui a été traduit par M. Philippe Rouard. Donc cette ville, c'est Portsmouth, qui se situe dans le sud de l'Angleterre et plutôt au bord de la mer, puisqu'en fait c'était un ancien arsenal de la marine britannique. Tout au début du roman, un flic infiltré est renversé intentionnellement par une voiture et laissé quasiment mort dans la rue. D'un autre côté, John Faraday, qui est le flic rémanent, j'ai lu ça l'autre jour, je trouvais que c'était bien plutôt que récurrent.
Oui, le flic rémanent de d'orthographe en général sur récurrent.
De Graham Hurley. Lui, il est plutôt passionné d'oiseaux, mais il va quand même, malgré tout, intégrer, en dépit de sa volonté, enfin, dit contre son gré, le projet Tumbril, qui est une vaste opération de police qui est destinée à faire tomber le caïd local de la ville de Portsmouth. Donc, ce caïd s'appelle Baza McKenzie. Et en fait, ce caïd, ils veulent le faire tomber parce que son influence, elle s'étend de plus en plus, bien au-delà du deal de drogue qui a fait sa fortune. C'est désormais, en fait, maintenant, c'est assez courant, les milieux respectables d'affaires, en fait, il a fini par blanchir l'argent, et donc c'est dans les milieux respectables qu'il évolue et qu'il exerce ses influences.
Ça aussi, c'est complètement de la fiction.
C'est complètement de la fiction, exactement. Et au fur et à mesure, donc, des progrès de l'enquête...
Il va falloir que tu en fasses des progrès, toi.
Ouais. Faraday a l'impression que l'opération Tumbril, donc de noyautage, est elle-même noyautée et que l'un des flics qui en est membre est passé du mauvais côté de la force, comme disait...
Ça me rappelle un peu le dernier film de Martin Scorsese.
Un petit peu, voilà. Mais en fait, il va être en même temps gêné dans ses investigations, décidément, par son fils, Gigi.
C'est plus facile, Gigi, qu'investigation, nettement.
En fait, ceci dit, son fils, lui, il est sourd-muet. Donc, il est quand même arrêté pour avoir aidé un drogué à obtenir sa dernière et mortelle dose. Et donc, contrairement... évidemment, avoir un flic arrêté pour... un fils arrêté pour un flic, c'est pas très pratique pour mener une enquête.
Sauf pour le faire libérer, c'est plus facile.
Voilà. Et contrairement à certains des romans... De ses confrères de romans noirs, en fait, Faraday, lui, c'est pas du tout un flic triste au bord du rouleau, c'est ça qui est assez bien, qui change un peu dans les romans de Graham Hurley. Il est pas particulièrement gay, mais il se porte bien. Bon, sa femme, il est plus avec sa femme, il a une nouvelle copine, il se débat avec ses collègues de bureau, dont on peut dire que l'intégrité n'est pas la première de leurs valeurs. Par exemple, lui, il roule dans une vieille Mondeo pourrie, alors que son collègue, il a une magnifique Subaru. Il a une nouvelle compagne qui est documentariste, qui lui pose aussi des problèmes dans son enquête, parce qu'en fait, elle filme les manifestations contre la guerre en Irak. Donc c'était au moment, tout au début de la guerre en Irak, où Blair avait mêlé les troupes anglaises à cette guerre, alors que la plupart du peuple n'en voulait pas. En fait, et c'est un roman très très intéressant, pas vraiment un roman noir, plutôt un roman d'enquête, d'ambiance. C'est le cinquième, en fait, des enquêtes de John Faraday, le flic donc rémanent de Graham Hurley. On avait découvert le premier qui était vraiment excellent, qui s'appelle toujours Disparu en mer, qui est réédité chez Folio Policier. Et les personnages, depuis cette première enquête, ont commencé à prendre du corps. Et il écrit un petit peu, c'est un peu comme on parlait certaines fois de certains romans la dernière fois, enfin, il fait un petit peu tout le commissariat, quoi, un peu à la Ed McBain. Donc il raconte tout.
Ça aussi, c'est très rémanent dans le roman noir.
Ça se fait de plus en plus souvent, mais c'est vraiment très bien fait, même si effectivement on constate, disons, que les diverses introspections de Faraday font un peu traîner en longueur l'histoire. Mais c'est comme c'est en Angleterre, on pourrait dire, il fait traîner un peu comme on fait traîner une pinte à la fin avant de rentrer retrouver.
Avant que la dernière cloche sonne.
Voilà, ou avant de rentrer à la retrouver Madame à la maison.
Je préfère, oui. Ouais. Ceci dit, ce que tu as dit sur le flic me fait penser qu'il faudrait faire un peu des statistiques, voire une étude sur le taux de personnages rémanents divorcés ou séparés dans le roman noir, parce que je pense qu'on approcherait pas loin des 100% là.
Tout à fait. Et donc juste, je voulais dire qu'en fait, si vous aimez Mankell ou John Harvey, en fait, ça, vous, avec Graham Hurley, vous vous régalerez. Et je vous recommande aussi, parce que c'est la cinquième histoire, si vous voulez pas lire toutes, Disparu en mer, la première est vraiment excellente, et le troisième, qui s'appelle Les anges brisés de Somerset, est très très bien aussi, et c'est peut-être la plus sombre de tous, en tous les cas.
Bon,
on se retrouve. On se rapproche fortement des informations, donc à tout à l'heure.
18h30 sur Agora FM, bon début de soirée, tout de suite l'information régionale.